La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Le corps ou l'étendue, dialogue Descartes-Maritain. Bonjour. En 1925, Maritain publie une œuvre majeure, trois réformateurs, qui sont Luther, Descartes et Rousseau. Cette œuvre est majeure par son ton, très polémique, mais aussi parce qu'elle situe la philosophie réaliste contre les temps modernes, faisant ainsi écho à anti-moderne. Œuvre majeure à un autre titre, c'est qu'elle va se répandre comme une véritable traînée de poudre dans toute l'Europe. Par exemple, en Roumanie, chez des intellectuels qui très souvent obtenaient une bourse d'un an pour aller parfaire leur français, parfaire leurs études, eh bien on retrouve dans les bibliothèques les trois réformateurs. Pourquoi ? Eh bien, nous allons nous arrêter sur le numéro 2, c'est-à-dire Descartes, considéré comme une pensée angélique. Et par rapport à notre sujet, qui est le corps, vous comprenez qu'on va tomber dans ce qu'on appelle un dualisme, le dualisme cartésien, qui actuellement est bien battu en brèche, notamment à propos de l'expression cartésienne « je suis comme un pilote dans mon navire », c'est dans la sixième méditation cartésienne qu'on trouve cette expression, montrant que finalement l'âme est unie au corps à la manière d'un pilote et de son navire. Certes, il faut nuancer ce qu'on entend par dualisme, mais en 1925, le dualisme cartésien est pointé par Maritain comme étant finalement le signe des temps modernes qui vont séparer le corps de l'âme. Comment le corps est-il vu par Descartes ? Le corps est vu comme une étendue, comme quelque chose finalement qui pourrait être quantifiable, mesurable. Et c'est donc à partir de cette vision du corps que Descartes pourra se décrire comme un pur esprit. Maritain va lui reprocher ce qu'il appelle cet angélisme, à savoir d'avoir toutes les facultés de l'ange, des idées innées, voire par intuition, voire par transparence un réel, etc., etc. Et ce défaut est grave parce qu'il empêche la soudure, j'ai pas d'autre mot, mais la concaténation, l'union du corps et de l'âme. C'est pas seulement en 1925 que Maritain va revenir sur Descartes, mais ce sera toute sa vie, notamment dans des conférences qu'il va tenir au Studio Russe à Paris, en compagnie de son ami Berdiaev. Et au cours de l'une de ces soirées, Maritain fait une sorte de résumé de sa pensée sur Descartes en trois points. Et le troisième point décrit une véritable anthropologie. Comment l'homme est-il conçu ? Et c'est à partir de cette anthropologie que l'on peut comprendre que Descartes voit le corps comme une étendue. La conséquence de voir le corps comme une étendue, vous allez rapidement le deviner, c'est de pouvoir aller vers une vision mécaniste du corps et coupée de l'âme. Arrêtons-nous un peu sur ce que Maritain peut écrire de cette anthropologie cartésienne qui lui semble grave. Le dualisme cartésien brise l'homme en deux substances complètes, jointes, on ne peut pas savoir comment. D'un côté, le corps qui n'est qu'étendue géométrique, de l'autre, l'âme qui n'est que pensée, un ange habitant une machine et la dirigeant par le moyen de la glande pinéale. Voilà le résumé de Descartes par Maritain. Je précise que la glande pinéale, c'est le lieu, bon, Descartes n'est pas idiot, hein, c'est le lieu que décrit Descartes comme lieu de l'âme. Vous voyez ici que la verve de Maritain est toujours présente, n'oublions pas qu'il est filleul de Léon Blois et que le vitupérateur qui est son parrain a laissé à son filleul une bonne plume. Mais au-delà de cet effet de style ou de cet effet de ricochet par rapport à Descartes, voyons l'enjeu philosophique qui est grave parce qu'il conditionne notre société actuelle. L'âme n'étant que conscience, tout l'inconscient sera désormais purement corporel, un psychisme inconscient sera une contradiction dans les termes. D'autre part, le conflit du déterminisme et de la liberté devient insoluble. Enfin, l'interaction du corps et de l'âme étant rendue désormais entièrement inintelligible, il faut avoir recours au grand mythe métaphysique de l'occasionalisme ou de l'harmonie préétablie ou du parallélisme spinoziste. Un spiritualisme outrancier, regardant toute fonction psychique comme purement spirituelle, précipitera dans le matérialisme des sciences, comme la médecine et la neurologie, qui doivent bien constater que le psychisme subit la répercussion des états du corps. C'est l'hyperspiritualisme cartésien qui a fabriqué en série les innombrables médecins matérialistes qui ont sévi dans la science jusqu'à la fin du siècle dernier. Vous le voyez, la pensée cartésienne a des retombées fondamentales. Actuellement, dans les librairies, on trouve beaucoup d'auteurs pragmatistes. Henry James, son frère, James le philosophe, et John Dewey, par exemple. C'est une pensée américaine, fort intéressante, mais qui repose finalement sur cette façon de voir les choses où l'âme est séparée du corps. Dans la théologie, on va dire scolastique, héritée de saint Thomas, pour le dire rapidement, le corps est fait pour l'âme. C'est les créatures angéliques, qui sont des puissances incorporelles, toute intelligence, qui vont finalement, cette intelligence va appeler le corps dans la chaîne des créatures qui vont de l'intelligence la plus parfaite possible, la plus proche de Dieu, on va dire, vers l'intelligence qui va être marquée le plus par le signe d'une finitude. Donc c'est un éventail, une palette qui parfait la création, et pour cette perfection de création, cet accomplissement, l'âme appelle le corps. Autrement dit, le corps n'est pas vu comme quelque chose qui va empêcher l'âme de voir. Les idées innées cartésiennes renvoient à une intelligence qui se veut purement angélique, comme si le corps était un handicap à la connaissance. En régime chrétien, c'est pas du tout le cas. C'est un régime qui unit le corps et l'âme, et la preuve, elle est très simple. Le Verbe s'est fait chair et le corps va ressusciter. Donc, il y a une union profonde du corps et de l'âme parce que cette union définit la personne. L'enjeu pour Maritain, en critiquant Descartes, c'est de tenter de pointer ce qui conditionne la pensée du XXe siècle, pour nous du XXIe siècle, et de dire, bon voilà, il y a eu des fractures dans la modernité, des fractures philosophiques qui ont des répercussions graves sur toutes les disciplines. Et c'est justement dans cette union de l'âme et du corps qu'il y a cette première fracture.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Le corps ou l'étendue? Si le corps se réduit à l'étendue géométrique, Alors il y va d'une séparation radicale de l'âme et du corps. Quelles sont les conséquences pour les temps modernes de cet apport cartésien ou de cette fracture cartésienne par rapport à une vision où l'âme et le corps sont profondément unis? C'est dans les trois réformateurs que Maritain pointe la dérive difficile vers le dualisme pour les temps modernes. Du fait que Descartes refuse de reconnaître la réalité des accidents distincts de la substance, son innéisme reste empêtré dans des embarras inextricables. Je rappelle que l'innéisme, c'est le fait d'avoir des idées innées, à la manière d'une version angélique de la connaissance, comme si alors un ange a l'idée innée de Dieu, et Descartes a l'idée de Dieu. Descartes voit les choses par intuition, d'une intuition qui pénètre le réel, comme s'il était transparent, et c'est catalogué par Maritain comme un péché d'angélisme, en quelque sorte. Tantôt, les idées innées sont des dispositions prochaines à penser ceci ou cela, qui toutefois se confondent avec la nature pensante elle-même, ce qui met dans celle-ci comme des préformations cachées, où s'annoncent déjà des virtualités qui seront reprises ensuite par Leibniz. Tantôt, l'âme diffère de ses pensées comme l'étendue de ses figures, et pour Descartes, par un de ces gauchissements si fréquents chez lui, la scolastique, notion de mode, est étendue, et cela veut dire que l'acte de penser ceci ou cela est une détermination non accidentelle, mais substantielle, un achèvement de la substance pensante dans sa ligne même de substance. Comme si une opération pouvait être substantielle ailleurs qu'en l'acte pur. Il se représente ainsi le mode comme un achèvement substantiel d'ordre opératif. Je vous ai donné ce passage qui est un peu difficile. Acte pur, c'est qui ? C'est Dieu. Dieu est acte pur, c'est-à-dire que son essence est d'exister. En référence à Exode 3,14, « Je suis celui qui suis », c'est dans le buisson ardent, la flamme, donc Yahvé, qui est au sein de la flamme du buisson ardent qui brûle sans se consumer, révèle qu'il est celui qui suit. C'est un verbe qui n'est pas accompli en hébreu, et ça renvoie à un futur indéterminé, ce qui n'est pas accompli. Il y a deux modes, hein. L'accompli et l'inaccompli en hébreu. Donc ici, acte pur, c'est celui dont l'essence est d'exister. À partir du moment où l'homme revendique cette manière de penser, il veut imiter Dieu. Pour petit rappel, nous l'avions déjà vu, quelle est la manière de penser, ou plutôt de connaître dans la scolastique, dans la philosophie réaliste, c'est la manière par intentionnalité, c'est-à-dire que le sujet connaissant devient d'une certaine manière l'objet connu. Vous voyez qu'on est à l'opposé de Descartes, puisque c'est l'objet qui va donner finalement la référence, le début, l'origine de la connaissance. Le sujet connaissant devient l'objet connu, mais il y a un objet connu. Dans l'innéisme, c'est le sujet qui a en lui, de manière innée, les objets de connaissance. Et le changement de paradigme, je peux prendre un mot contemporain, est considérable, c'est-à-dire qu'on va éclipser toute l'objectivité et on va rester dans la sphère du sujet. Une autre conséquence, c'est que l'âme humaine n'est pas seulement subsistante, comme l'enseignaient les anciens, et faisant exister le corps de sa propre existence, elle a, sans le corps, reçu directement de Dieu, toute la perfection opérative qui lui peut convenir. Voilà détruite la raison même de son union au corps, ou plutôt la voilà renversée. Car si le corps et les sens ne sont pas pour cette âme le moyen nécessaire de l'acquisition de ses idées, et donc l'instrument par lequel elle s'élève à sa perfection propre, qui est la vie de l'intelligence, et la contemplation de la vérité, alors, comme il faut bien que le corps soit pour l'âme et non inversement, le corps et les sens ne peuvent plus être là que pour fournir à l'âme, qui n'a besoin que d'elle-même et de Dieu pour penser, le moyen de s'assujettir pratiquement la terre et toute la nature matérielle. Ce qui colloque le bien de l'âme dans la domination de l'univers physique. Vous le voyez, je vous ai lu ce passage maritain qui résume ce que je vous présentais juste avant la plage musicale, cette neuvième improvisation de Poulenc. La conséquence, c'est que le sujet pensant à la Descartes vise une maîtrise du monde. Il y a quelques années, juste avant le confinement, se tenait à New York, dans la Guggenheim Collection, une grande exposition sur la planète. Il y avait un tracteur vert en bas du musée, que vous connaissez peut-être, en hélice. Et puis on monte dans cette hélice et il y a plusieurs... C'était très très bien fait, au plan politique, au plan économique, au plan agricole, au plan historique. Et il y avait une niche assez tôt dans l'hélice qui était destinée à Descartes. Et Descartes était présenté comme le philosophe à l'origine de la prédation du monde et à l'origine des problèmes planétaires que nous connaissons maintenant, qui ne sont pas une option, qui sont une obligation dans nos préoccupations quotidiennes. Et comment Descartes était-il présenté comme finalement le responsable, justement, en raison de la mathesis universalis, c'est-à-dire la mathématique universelle? Descartes a eu pour ambition de proposer une science universelle qui peut tout expliquer. Et vous le voyez tout de suite, de la science à la maîtrise, il n'y a qu'un pas, parce que tout peut être rangé, quantifié, dominé. Et en amont, cela vient de cette vision radicale d'une âme séparée du corps qui se réduit à l'étendue. Descartes à New York, c'était juste avant le confinement, dans une exposition dédiée à la planète. Et Descartes n'était pas flatté, il était plutôt rendu responsable de l'état actuel de la planète, c'est-à-dire de tous les maux. Alors on ne peut pas être si binaire, mais Maritain, dans sa critique de Descartes, en arrive à pointer quelque chose qui a été également pointé au Guggenheim Museum en 2020. Voici ce qu'il écrit dans une conférence qu'il a tenue au studio russe en présence de Berdiaev. Voilà l'homme centre du monde, d'un monde de toutes parts inhumain, qui fait pression contre lui. Rien dans la vie humaine n'est plus à la mesure de l'homme, au rythme du cœur humain. Les forces qu'il a déchaînées l'écartèlent. Il veut régner quand même, et plus que jamais, et sur sa propre nature, mais comment? Par la seule technique. C'est-à-dire par des moyens extérieurs à lui-même. Nous arrivons ainsi au grand débat de notre âge, au débat de la liberté par la technique et de la liberté par la cèse. Je veux dire ceci, il y a deux façons de concevoir la maîtrise de l'homme sur lui-même. L'homme peut devenir maître de sa nature en imposant à l'univers ses propres énergies internes et la loi de la raison aidée de la grâce. Cette œuvre, qui est une construction de soi dans l'amour, exige que nos rameaux soient taillés pour porter du fruit. ce qui s'appelle mortification. Une telle morale est une morale ascétique. Ce que le rationalisme prétend nous imposer aujourd'hui, c'est une toute autre morale, une morale anti-ascétique exclusivement technologique. Une technique appropriée doit nous permettre de rationaliser la vie humaine, c'est-à-dire de satisfaire nos désirs avec le moins d'inconvénients possible, cela sans réforme intérieure de nous-mêmes. Ce qu'une telle morale soumet à la raison, ce sont donc les agents extérieurs à l'homme et les forces matérielles instruments de la vie humaine. Ce n'est pas l'homme, ni la vie humaine comme telle. Elle ne délivre pas l'homme, elle l'affaiblit, le désarme, le rend esclave de tous les atomes de l'univers et surtout de sa misère et de son égoïsme à lui. Que reste-t-il de l'homme ? Un consommateur couronné de science. Cela, c'est le dernier cadeau, le cadeau au XXe siècle de la réforme cartésienne. La technique est bonne, la machine est bonne, je réprouve l'esprit d'archaïsme qui voudrait supprimer la machine et la technique. Mais si la machine et la technique ne sont pas domptées, soumises de force au bien humain, c'est-à-dire entièrement et rigoureusement subordonnées à l'éthique religieuse et rendues instruments d'une morale ascétique, l'humanité est littéralement perdue. L'humanité est littéralement perdue. Maritain écrit cette phrase, et c'est ce que vous venez d'entendre, dans les années 30. Qu'en est-il en 2023? Quel est l'apport du XXIe siècle au cartésianisme, ou en quoi le cartésianisme trouve-t-il une modification? Eh bien, je le verrai dans le fait qu'on nie le dualisme cartésien, de même qu'il y a actuellement une lecture de l'héritage platonicien par Aristote, où Aristote est élève de Platon, et puis s'en dissocie radicalement. Eh bien, cet héritage, cette différence, on va dire, est gommée au profit d'une seule philosophie, qui serait un seul fleuve unique, platonicien, aristotélicien. Et ces sortes de gommages, d'angles qu'on arrondit, me semblent périlleux. Périlleux pour la clarté de l'intelligence et pour le rapport, finalement, de l'homme à sa propre connaissance. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.